Bienvenue, bienvenue sur le podcast du Lab, podcast qui parle d'endodontie et de management. Alors, un seul mot d'ordre, comparer ses idées pour une créativité collective. Voilà, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, à ma gauche, le grand, le magnifique, Marc Vercherin. Comment tu vas, Marc ?
Ça va super, Mathieu.
Merci d'être venu aujourd'hui.
Merci à toi.
Un samedi matin, c'était pas trop dur ?
Ça va.
Et toi, Baptiste, ça va ?
Ouais, très très bien.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré un podcast. Hein.
Ouais, un petit moment.
Ouais, une petite année ?
Ouais, je pense.
Voilà. Et aujourd'hui, il manque les autres, mais on a deux nouveaux acolytes avec nous, Sandrine Dahan et Coris Couvrechel.
Bonjour.
Courchevel.
Bonjour.
Morzine.
J'ai bien dit, c'est bon ?
Morzine.
Ça va les gars ?
Ça va et toi ?
Ils viennent de Paris pour nous voir, c'est quand même exceptionnel, non ?
Ouais, c'est chouette.
Ça a été le trajet ?
Ça a été.
Bon, super.
Ça a été, c'est très cool d'être là. C'est très sympa. Bonne ambiance.
Puis vous êtes en vacances, je crois, en plus.
C'est ça.
Et on est bien reçus.
C'est vrai.
Ouais, avec brioche, jus de pomme.
Bon, bah parfait.
Bière.
En tout cas, nous, on est ravis que vous soyez là. Donc, aujourd'hui, moi, je vous propose d'aborder un thème qui est assez, assez complexe parce que autour de la table, on est tous des endodontistes. C'est ça ?
C'est ça.
Vous aussi ?
Non, toi, Coris. Si.
Ouais,
si,
la bascule, ouais. Elle s'est faite quand ? Parce que je crois que t'es aussi omnipraticien ou pas du tout ?
Non, c'est fini. Alors, c'est fini. Ça dépend si on rentre dans la philosophie de ce qu'est un endodontiste. Voilà. Parce que c'est vrai, comme il n'y a pas la reconnaissance aujourd'hui de la spécialité. Non, mais moi j'ai fait, je sais pas, j'ai quel âge ? J'ai 45. Donc j'ai dû, ça fait 20 ans que je dois faire maintenant de la dentisterie, on va dire, sorti de la fac à peu près. Et j'ai fait 5 ans d'omnipratique pure. 5 ans, moitié endo, moitié resto, on va dire. Je touchais plus à la paro et tout ça. Et puis après, 10 ans d'endodontie.
Un OC exclusif, quoi.
Ouais.
OCE exclusif. Et toi, Sandrine ?
Moi, j'ai fait 3-4 ans d'omnipratique.
Ouais.
Et contrairement à Coris, moi, la bascule a été nette parce qu'en fait, j'ai changé de cabinet pour faire de l'endo. Donc le jour où j'ai changé de cabinet, j'ai arrêté de faire de l'omni et j'ai commencé à faire de l'endo. Pendant une petite année, j'étais sur les deux cabines en même temps, mais sinon, la bascule, elle avait quand même été très, très nette.
Très nette. Ça a été dur ?
Non. Et je repensais, moi, je continuais à faire du collage, quand même. Je restaurais dans des pulpés, mais peut-être vous aussi, j'imagine. Voilà.
Bah,
et
donc, ça fait un peu partie du job de l'endo, quand même, non ?
Ouais, bah c'est une question. Je pense que c'est un débat qu'il faudrait avoir. C'est peut-être, c'est à rigueur, la question d'aujourd'hui. Ah. Non, peut-être changer de sujet d'aujourd'hui.
Non, mais à mon avis, la question qu'on va aborder aujourd'hui, elle va vous plaire.
Ah.
Elle va vous plaire. Et Marc, toi, ça fait combien de temps que tu es endodontiste ?
Moi, ça fait deux ans.
Deux ans.
Et ça fait deux ans que je suis sorti de la faculté, donc je ne connais pas ce que c'est que l'omnipratique, vraiment.
Jamais, t'en as jamais fait ?
J'en ai fait un stage actif, puis à l'hôpital. Hein.
D'accord.
Sinon, j'ai fait directement que de l'endodontie.
D'accord. Et toi, Baptiste ?
Moi, ça fait 4 ans et demi que je suis sorti de la fac. J'ai fait des remplacements en omnipratique, mais sinon, orienté très rapidement en endo. Très rapidement dans des formations et donc ouais.
C'est très marrant parce que j'avais une étudiante qui était au cabinet mercredi et elle était en train de me parler de son avenir et elle me disait est-ce qu'il faut que je fasse de l'omni avant d'être endo ? Et moi justement alors je pensais à ma femme, comment elle a géré un peu sa vie professionnelle et justement je lui disais moi je pense que je serais toi, je partirais directement vers de l'endo. Je ne ferais pas forcément de l'omni avant. Et elle me dit, ouais, tout le monde m'a dit, il faut faire de l'omni pour connaître un peu l'omni et tout. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que pour connaître l'omni, ce n'est pas être capable de coller, d'extraire une dent. C'est la stratégie de plan de traitement complexe. Et ce n'est pas en faisant 1 an, 2 ans d'omni que tu deviens omni. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même un petit recul, au moins, je veux dire, 10 ans, 5 ans, tu vois, pour pouvoir faire des cas complexes et donc de réfléchir stratégie. Parce que c'est ça, finalement, la complexité, je trouve, de l'omni pratique. Ce n'est pas le geste technique. Mais c'est vraiment la stratégie globale des choses. Et c'est vrai, donc c'est une vraie question que se posent les jeunes qui veulent faire de l'endo. C'est est-ce que je fais de l'omni ou je bascule tout de suite ? Et moi, je lui disais, à mon avis, tu as intérêt à basculer tout de suite. Tu fais des formations. Et rien que déjà pour être endo, tu as beaucoup de choses à apprendre. Si tu as envie d'être un super endo, faire des conférences, faire des articles et tout, ça va te prendre beaucoup de temps, plus la vie de famille. Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas vie de famille. Hein, voilà, mais il y en a aussi qui en ont une. Si tu veux tout faire, je me suis dit, pour avoir une vie agréable, bascule tout de suite vers l'endo. Voilà.
Et vous, vous le vivez comment ?
Moi ?
Ouais, enfin tous les deux. Ouais. Le fait d'avoir... Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un manque de ne pas avoir fait de l'omni avant ? Est-ce que...
Marc Vercherin.
Non, je pense que du coup, je ne me rends pas compte de ce que c'est de faire de l'omni pratique.
Ouais.
C'est vrai qu'en termes de vision globale sur les plans de traitement, j'avais travaillé l'internat à la faculté, donc c'est quelque chose que j'avais assez bien compris, je pense, de base. Mais il y a forcément des subtilités que, qui me manque, ouais, c'est, je pense que c'est obligé. Ouais.
Baptiste ?
Effectivement, dans les réponses qu'on apporte, je pense qu'il y a nos biais personnels qui rentrent en compte. Aujourd'hui, quand je vois un plan de traitement, je pense pouvoir avoir une vision plutôt globale, quoi. Mais si ça se trouve, si j'en parle avec un omni, il me dirait que non. Mais je pense que ce qui joue énormément, nous, dans notre expérience, c'est toutes les discussions qu'on peut avoir, en fait. C'est aussi, on nous partage l'expérience, d'autres personnes nous ont partagé pas mal d'expériences. Donc, en fait, directement, dès qu'on a une dent, on sait que, au niveau paro, on a pas mal de repères. Au niveau implanto, on a aussi des correspondants. Donc, en fait, on est beaucoup dans l'échange. Il y a pas mal de situations où la prise de décision, elle est pas que de, elle vient pas que de notre personne. On échange beaucoup, en fait. Donc, c'est vrai que, en tout cas, personnellement, peut-être que je pallie ce manque d'expérience globale par plus de communication avec d'autres spécialistes.
Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, mais ça me fait penser. Moi, je rebondis. Hein, je parle.
Ah oui, ouais, si non, tu, c'est très bien.
Je suis quelqu'un de timide, il faut que tu le saches.
Ça n'a pas l'air comme ça.
Non, je repense, quand j'ai commencé mon activité, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai voulu travailler avec des gens qui étaient censés être bons. Qui étaient bons, pour moi. Et donc, pour me dire, c'est en me disant en omnipratique, je vais apprendre en travaillant avec ces spécialistes qui sont très bons. Alors, en l'occurrence, en endo, j'ai envoyé des cas à Jean-Philippe Mallet. En implanto, c'était Philippe Cayat. Et en paro, implanto, on va dire, c'était Jean-Luc Giovanelli. Et je me rappelle toujours de Philippe Cayat et Jean-Luc Giovanelli qui faisaient les plans de traitement d'omnipraticiens, qui te disaient, bon, alors tu vas faire l'approviseur à tel moment, tu vas faire tel type de restauration et tout. Et Philippe, il faisait des schémas. Il te faisait des schémas et tu sentais que c'était pas quelqu'un qui faisait juste des implants, tu vois. Il te réfléchissait un peu la globalité des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande question qu'on peut se poser. C'est dans nos pratiques, soit on est endodontiste, on reçoit les patients, on fait le traitement et basta. Soit on apporte du conseil dans un truc plus global. Alors après, je pense qu'il n'y a pas que l'endodontiste, on va dire, qui doit se poser la question. Je veux dire, il y a des praticiens qui vont, t'as des praticiens qui diront, j'ai pas envie de tes conseils, je veux juste que tu sois un technicien. Et puis il y en a d'autres qui vont chercher ton conseil. Et quel que soit le niveau de l'omnipraticien, c'est-à-dire qu'il y a des très bons omnipraticiens qui vont dire, on va discuter ensemble, on se prend égal à égal. Je vois par exemple mon associé, Jonathan Chéneau, on discute des plans de traitement ensemble. C'est pas lui, il me dit, tiens, fais la dent et basta, tu vois. Et puis, donc voilà, donc ça dépend vraiment des praticiens et quel que soit leur niveau. C'est pas parce que la personne, elle se sent bon, qu'elle est bonne, en tout cas qu'elle est forte, qu'elle n'aura pas de discussion et que toi, t'en as pas une interaction dans le plan de traitement. Moi, aujourd'hui, j'adore avoir des interactions dans le plan de traitement et j'adore travailler avec des gens où j'ai l'impression que justement, on va réfléchir ensemble sur l'avenir des choses.
Bah, c'est super parce qu'en fait, merci pour cette introduction les gars, parce qu'en fait, je trouve que les médecins sont bien plus en avance que nous par rapport à ça. La médecine générale est une spécialité. Tu disais qu'il faut de l'expérience pour bien prendre d'un point de vue global son patient. Et le thème que je voulais aborder maintenant, c'est comment bien communiquer entre professionnels de santé et donc comment bien communiquer entre endodontistes et omnipraticiens. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, je sais pas vous, mais j'ai eu comme des histoires d'amour avec des praticiens. C'est-à-dire sans même... toi aussi. Oui, c'est vrai que Sandrine et Coris se sont mariés. Suite à ça, j'imagine. Peut-être. Non, vous êtes rencontrés à la fac ou pas?
Non.
Pas du tout.
Non.
Après.
Ouais. Okay.
Avec et moi, j'avais deux correspondances.
J'avais beaucoup entendu parler d'elle. Et
voilà,
j'étais fasciné.
Coris raconte une histoire différente à chaque fois qu'on lui pose la question.
Très bien. Et donc, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on s'entend très très vite, très très bien avec certains praticiens sans forcément créer des liens. Tu vois, il y a des gens, ils t'envoient des courriers, c'est toujours nickel. Tu leur envoies les comptes rendus, c'est toujours nickel. Tout se fait de manière assez fluide. Et d'autres, putain, il faut travailler, ravacher, des fois se confronter. On n'est pas d'accord. Certains pensent que l'endodontiste devient un exécutant. L'autre va penser que l'omnipraticien ne fait pas du tout les bons choix dans son plan de traitement global. Donc, je voulais savoir comment vous, dans votre activité, vous mettez en place les process pour bien échanger avec vos correspondants. Sandrine ?
Alors moi, j'ai une activité dans laquelle j'ai très peu de correspondants. C'est un fait. J'ai pas spécialement choisi ça, mais en tout cas pas de façon consciente, mais probablement ça s'est fait...
Tu dirais que t'en as combien ?
Vraiment, avec qui je travaille, je sais pas, peut-être 5. Après, si je te sors ma liste, il y en a peut-être une centaine, mais en vrai, de vrai, des gens qui remplissent plus de 90% de mon agenda, ouais, peut-être 5-6. Voilà. Et ça, c'est d'ailleurs tout à fait le contraire de ce que fait Coris, enfin de la situation de Coris. Mais...
J'ai 1200 correspondants. Les mecs m'ont envoyé une fois, ils m'ont jamais renvoyé.
J'ai 1200 correspondants.
Mais du coup, je travaille avec des gens que je connais très bien. Donc la communication, elle se fait forcément plus facilement avec des gens qu'on connaît. Et elle est très agréable. Et j'hésite pas à décrocher mon téléphone si ce qui passe à travers les courriers, les mails, les choses. Donc on a, on va dire, une communication qui va être très concise, très directe à travers des mails ou des protocoles d'échange voilà, quotidien. Mais par contre, dès que le malentendu pourrait naître, c'est facile de décrocher son téléphone et de lever le doute ou dire oralement des choses qui sont plus difficiles à passer à l'écrit, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a du mal à passer à l'écrit. Et notamment, finalement, je me rends compte avec le temps que les moments où je vais avoir le plus besoin de décrocher mon téléphone, c'est pas tant des situations cliniques complexes, ça peut arriver, mais ça va surtout être des situations humaines complexes. Quand humainement... je sens que c'est compliqué avec le patient, que c'est là où je vais prioritairement prendre mon téléphone.
Donc ce contact régulier, cette disponibilité pour un échange, et favoriser un pôle de correspondant très efficace, très proche.
Voilà, alors favoriser, oui, enfin nécessairement j'ai dû le favoriser inconsciemment, mais en tout cas, voilà, et puis c'est des gens que avec les années, hein, ça fait pour chacun beaucoup d'années que je travaille avec eux. Il peut se passer beaucoup de semaines sans qu'on se parle, mais finalement, comme les années s'accumulent, dès qu'on va décrocher le téléphone, c'est comme si on s'était parlé la veille ou le matin même. Donc,
ça soulève une bonne question, c'est-à-dire est-ce qu'on va chercher à avoir un maximum de correspondants ou alors est-ce qu'on va fidéliser une petite partie Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste ?
Par rapport à mon expérience, de travailler avec quelqu'un avec lequel on peut avoir un contact facile, direct et quotidien, comme tu l'as défini, Sandrine, c'est toujours plus agréable parce qu'on va avoir des documents qui sont vraiment chiadés, des infos qui nous permettent de bien accueillir le patient. En fait, on sait que notre prise en charge, elle va être beaucoup, beaucoup plus confortable. C'est vrai que nous aussi, ces patients-là pour lesquels les dossiers sont complets, on arrive à les recevoir directement en soins, donc c'est même plus rapide, tout est plus efficace. Donc c'est vrai que je partagerais plus ta philosophie d'essayer d'avoir un réseau avec lequel on arrive à communiquer très facilement, et je pense que ça se fait en comité plutôt restreint, tout en gardant une certaine ouverture bien évidemment, mais c'est un équilibre à trouver. C'est vrai que je me positionnerais peut-être, Coris n'a pas encore défini, mais peut-être entre tous les deux.
Une synthèse des deux, quoi. S'ouvrir et en même temps travailler le noyau dur avec lequel on travaille mieux.
Après, je suis pas fermée, hein, je suis ravie de non, je veux pas non plus donner une image, je suis pas fermée. Et puis j'ai eu, au fur et à mesure des années, des correspondants aussi qui ont évolué. Mais c'est vrai que même si j'en ai des nouveaux, après je reste avec ces nouveaux-là. Enfin, en tout cas, voilà.
Vous connaissez la loi de Pareto?
Non. 80.
Alors vas-y Marc, parce que Marc, Marc a fait une thèse sur la communication et en endodontie, donc c'est vrai qu'il ressort de ta thèse beaucoup de choses extrêmement intéressantes.
Oui, on avait abordé ce sujet. La loi de Pareto, c'est la notion que 20% par exemple des référents vont peut-être amener 80% des résultats, des consultations, des patients qu'on va soigner. Donc à partir de là, si on bichonne ces 20% et qu'on entretient de bonnes relations, ça permet de se concentrer sur l'essentiel, avoir quelque chose de plus efficace, en tout cas dans les liens avec les correspondants.
Et ça, c'est une loi qui marche dans tout projection, dans
universel,
tout entrepreneuriat. Ouais, c'est universel, ouais, voilà, c'est ça. 80% aussi de tes patients vont représenter 20% de ton chiffre dans un cabinet d'omnipratique, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ou même, 80% de tes clients vont prendre 20% de ton temps.
20% des patients rapportent 80% du chiffre d'affaires.
Exactement. C'est ça, la loi de Pareto. Et c'est vrai qu'elle est universelle. C'est ça qui est assez troublant. T'y crois pas trop, Coris?
Non, mais c'est vrai qu'on s'y retrouve dans beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est comme la loi de Schopenhauer, des trucs comme ça, on s'y retrouve. Mais bon, après, est-ce qu'elle est universelle vraiment? Bon, je suis pas certain, mais c'est vrai que ouais, c'est une loi de répartition. Voilà. Mmh. C'est. Mmh. Alors, ouais, ça, c'est. Putain, je vais me lancer dans les trucs, je vais te dire des conneries là. Non, mais c'est vrai que dans les répartitions gaussiennes, ça doit peut-être s'expliquer mathématiquement, ceci dit. Hein.
Ouais, sans doute.
Ouais, c'est sans vrai, doute. Quand tu réfléchis.
En tout cas, ce qui est intéressant, ouais. C'est de savoir comment on va ramener ceux qui sont dans les 80% qui nous posent le plus ouais. de problèmes, les ramener dans les 20% en fait. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour travailler des correspondants qui vont être efficaces et avec qui on va bien s'entendre? C'est ça. Dans ta thèse, il y a beaucoup de réponses, non, Mathieu Marc.
C'est vrai qu'on avait pris le temps de réfléchir à tout ça. Mm. Globalement, on avait analysé, identifié quatre axes de travail, je pense.
Mm. Le premier.
Le premier, ça va être le contact physique en réalité qu'on avait ouais. vu ensemble.
Donc, c'est-à-dire les soirées, les formations, ouais. l'animation du réseau.
Ressortir la personnalité que l'on a pour créer un vrai lien social, en fait. Mm.
Ça, c'est important. Parce qu'on peut voir des praticiens qui sont d'excellents techniciens. Mais qui, socialement, peut-être un peu introvertis, un peu, qui ont un peu de mal à se mélanger.
Ouais.
Surtout en endo.
Non,
bah si, c'est possible. Ouais. Non, parce
non,
que c'est une discipline
pense,
qui est
tellement énorme. Ouais. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a un biais de sélection. C'est une discipline qui est un peu de l'intérieur, non
enfin, ouais,
je
ça veux fait dire, sourire, en tout cas.
Il y a même eu des études hein, ah oui sur l'endodontie. Ah justement, oui aux référents, on leur donne un questionnaire. Voilà, pourquoi vous orienter chez telle personne? Et il montre qu'en fait, les trois premiers facteurs, plus que la technique, bah déjà, il y a la disponibilité. Mmh. Est-ce qu'il y a des rendez-vous rapidement? Il y a la personnalité qui arrive en numéro 2. Mmh. Et le 3, je ne sais plus ce que c'est, mais globalement, voilà, c'est la personnalité, la disponibilité qui joue.
Et ce n'est pas le taux de succès.
Et ce n'est pas forcément le taux de succès ou la compétence brute.
Ouais.
Quoi.
Il y a une phrase de je ne sais plus quel artiste qui dit que le patient va plus, ou un client, parce qu'elle l'applique dans un autre domaine, mais elle dit que la personne va plus se souvenir de ce qu'elle a ressenti auprès de toi, pas forcément de ce que tu lui as fait. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
J'ai le troisième, c'est la localisation. Est-ce qu'il est à côté?
Ah bah oui.
Forcément.
Ah
oui, ouais, bien sûr.
Accessible
trois,
en tout cas.
Trois grands ouais. facteurs.
Et est-ce qu'il y a, donc on a dit le contact physique, voilà, contact. La personnalité, etc. Mmh. Qui, grâce à ce contact physique, bah, ça, les rencontres de personnalité. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres outils?
Trois autres outils. Ouais. Le formulaire d'orientation.
Ok, donc il faut qu'il soit standardisé, c'est ça?
Il faut qu'il soit standardisé, toujours organisé de la même façon pour être facilement lisible par les correspondants. En un coup d'œil, il faut qu'il y ait des informations.
Donc là, on peut conseiller de mettre en place des outils comme une fiche juste après remplir, quoi. En fait.
Ouais, exactement.
Ouais, ok. Parce que c'est vrai qu'on peut recevoir, je sais pas vous, vous avez peut-être des courriers où vous avez traitement endo de 26 sans rien dire, et puis d'autres qui vous expliquent, qui vous font une tarte.
Plus maintenant. Plus maintenant, nous aussi, là, ça y est, on a commencé à mettre
à standardiser.
Maintenant, ça y est, on a une fiche qu'on est en train de diffuser auprès de nos correspondants. Le problème, c'est ça. C'est ouais, si t'as dit correspondant, tu diffuses facilement.
Bah oui, bien sûr.
Quand t'en es à 100, ou je sais pas combien, ou 50, déjà, c'est déjà plus difficile. Ou
avec 1000, le succès, ouais. C'est plus difficile de. Ouais. Et donc, du coup, on a les contacts physiques, la fiche d'orientation qui doit être standardisée. Troisième chose.
Bah, ça va être le compte-rendu opératoire et on va pouvoir parler d'endodata.
Ah oui, ah. Endodata.
C'est quoi?
Qu'est-ce que c'est endodata? Et donc.
Qu'est-ce que c'est endodata?
Non. D'abord, toi, Marc, le compte-rendu post-opératoire, qu'est-ce qui est important?
Qu'est-ce qui est important? Ouais, globalement, bah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même la HAS, il y a des recommandations là-dessus.
Tout à fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assez concis, il faut que ça tienne deux pages maximum, parce que de toute façon, il va pas être lu en entier. Il faut qu'il soit donné rapidement, c'est à peu près dans les 8 jours, si c'est le jour même ou le lendemain, c'est idéal. Et puis, il doit être assez complet quand même. Au minimum, il faut qu'on ait les radiographies, pré-opératoire, post-opératoire, des photographies pour l'étanchéité de la digue, c'est également intéressant, et voir les structures coronaires peut-être aussi. Et puis, qu'est-ce qui a été mis en coronaire et qu'est-ce qui est prévu pour la suite, qui est une continuité du soin, pour que bah, si on fait une endo, c'est pour qu'il y ait une couronne par-dessus. Et puis également, cette restauration coronaire, elle est essentielle pour le pronostic de la dent.
Que le continuum se fasse bien, en fait.
Continuum endoprothétique.
Ouais, le fameux.
Le fameux.
Et donc, moi, il y a quelques temps, je crois que c'était un congrès européen dans un couloir. Je vous ai rencontré, on s'était assis par terre.
C'est Bruxelles, ouais.
Bruxelles, voilà, ouais. C'est ça. Peut-être Baptiste était là, non, je crois
non.
pas.
Non. Ouais,
et puis, j'ai eu une démonstration d'un logiciel assez exceptionnel. où tout de suite, bah, j'ai dit, mais en fait, c'est évidemment ce qu'il faut à tout endodontiste, qui s'appelle Endodata, et donc qui facilite grandement cette, cette communication.
Tout à fait, ouais. On entre ben, dans les critères que je viens de donner Marc, exactement. Ça part du début, donc il y a une fiche d'adressage qui va directement dans le logiciel. Alors, je ne sais pas, peut-être il faut qu'on dise un peu ce que c'est que le logiciel.
Avec grand plaisir. Est-ce que c'est vous deux qui l'avez créé?
Ouais, c'est nous. Ouais, mais alors, moi, je ne vois pas comme, nous deux. Je trouve qu'on est quand même nombreux à avoir participé au projet. Voilà,
oui, d'accord.
Vous aussi.
C'est-à-dire
ou
que vous l'avez créé, mais... vous l'avez enrichi des retours que vous avez eus.
Ouais,
oui,
mais
l'idée d'itération, c'est voilà, de soumettre à l'exercice de chacun. L'idée, c'était de ne pas faire quelque chose qui nous satisfasse à nous, mais qui soit un petit peu transversal, qui convienne à différents types d'activités et différents profils de praticiens et de niveaux d'expérience différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi nos utilisateurs, on a aussi bien des gens qui sont des conférenciers internationaux que des gens qui sont super débutants.
Qui démarrent l'endodontie, parce que là, actuellement, il y a plein de personnes qui démarrent l'endodontie. Il y a une vague endodontique qui est en train de submerger la vague implantaire.
C'est chouette, c'est marrant.
Il y a un changement de paysage, je trouve. Hein. Peut-être que je me plante totalement, mais on voit beaucoup d'endodontistes qui sont en train d'arriver et qui cherchent à se former et tout ça.
C'est chouette. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce logiciel, c'est qu'en fait, c'est en trois clics, le courrier est parti chez le correspondant.
Exactement.
Ce qui pouvait prendre, enfin, quand j'ai grandi, moi, en endodontie, le soir, il fallait que je reste une demi-heure pour faire mes comptes rendus. Enfin, c'est une souffrance, hein.
Pour revenir à ce que disait Marc, c'est vrai qu'il parlait de la rapidité d'envoi du compte rendu. Quand le patient part de mon cabinet, j'appuie sur le bouton, ça part. Et ce qui est marrant, donc moi, je suis au troisième étage. Le patient, il le reçoit entre le deuxième et le premier étage. Et c'est vrai que il est avec son téléphone et la première chose qu'il fait en sortant du cabinet, c'est j'ai même vous dans la rue quand il sort parce que vous êtes au rez-de-chaussée, ça marche aussi. Il sort dans la rue et en fait la première chose qu'il fait, c'est regarder son téléphone. Et là, il fait waouh, j'ai déjà reçu le compte rendu.
Oui, parce que ce qu'on peut expliquer, c'est que tout est pré-rempli.
Ouais, tout est pré-rempli.
Ça se clique en quelques clics pendant un soin. Ouais. Et donc, ça permet d'envoyer aussi rapidement. Voilà.
Et donc le patient,
PDF, ça... c'est ça.
Exactement. Ouais. Et en même temps que.
J'ai pas fini.
Ah pardon.
Non, mais sur les choses, il y a un effet waouh sur le patient, c'est vrai.
Ouais.
Et puis le deuxième effet, quand même, qui n'est pas négligeable, mais qui est hyper important, c'est cette diminution de charge mentale. C'est-à-dire que quand tu sais que quand le patient est parti, tu as appuyé sur le bouton, et ce patient, tu peux l'oublier. Ça, en termes d'effet charge mentale et de vie,
Passer à autre chose et te reconcentrer sur la performance du soin.
Exactement. Le clic de la libération mentale. Quoi.
Tu voulais dire quelque chose, Sandrine?
Ben ouais, mais je suis tellement alignée avec Coris que je voulais dire exactement ce qu'il vient de dire.
j'ai noté parce qu'on m'a filé un petit crayon, un petit papier. Moi, j'avais des choses. Je peux revenir un peu en flashback sur des trucs où je fous le bordel dans la discussion?
Non, non, vas-y. Si tu fous le bordel, je te dirai stop.
Oui, c'est vrai que vous avez parlé justement des fiches d'adressage et tout ça, et c'est justement quelque chose sur lequel on a travaillé cette année. Et c'est avant, finalement, Endodata, et pour beaucoup de personnes, c'est juste faire un compte-rendu. Alors, juste faire un compte-rendu, ça fait gagner beaucoup de temps et voilà, tous les intérêts que on vient de citer. Mais c'est aussi, aujourd'hui, maintenant, un moyen de communication avec ses correspondants. Donc, en fait, un tri des courriers, de dire « Ok, j'ai pas la bonne radio, est-ce que tu es sûr qu'il faut traiter ?» Parce que je vais revenir, je vais faire un flashback, je reviens en arrière. On a parlé de distance, des gens qui viennent de loin, de la localisation. Marc, tu as parlé de la localisation. Je voulais revenir sur le nombre de correspondants qu'on a et tout ça. Et moi, de mon traumatisme quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais en boîte de nuit et plein de fois, je me suis fait refouler plein de boîtes de nuit. Tu vois, non, mais c'est vrai, ça rigole pas, Marc.
C'est un gros flashback.
Si on avait fait une vidéo YouTube, on comprendrait pourquoi.
C'était en quelle année,
98. Je me faisais tèche des boîtes de nuit.
Si tu y allais avec
pourtant, j'étais stylé. et c'est vrai que.
Ça dépend de quelle année correspond le style, mais oui, effectivement.
Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et je me suis dit, je ne refuserai jamais des patients. Il y avait vraiment cette notion dans ma tête, et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup plus de correspondants que Sandrine, c'est que j'ai jamais mis le moindre filtre. Bah, Sandrine, tu mets plus de filtres, je pense.
Je sais pas. Mais
moi, en tout cas, j'ai accepté tout le monde. Et c'est vrai que. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là, il y a cette dimension de prise en charge des patients. C'est-à-dire que tu peux te dire, t'es endodontiste avec 10 correspondants, Et c'est ce qui, à mon avis, la meilleure façon. Si moi, je pouvais travailler qu'avec 10 correspondants, genre, tu vois, par exemple, mon associé, j'adore travailler avec lui. Il représente, à mon avis, à peu près, je crois que j'avais regardé sur mon data, 30% de mon activité. Si je pouvais faire qu'avec mon cabinet, c'est génial. Tu vas le voir, tu te balades. Le patient, tu le revois le jour de la pose de la couronne, s'il y a une couronne derrière. Tu le vois dans la continuité. C'est en tant qu'endodontiste, c'est une satisfaction parce que c'est une prise en charge globale dans une équipe. Bon, c'est pas toujours possible de le faire.
Et ça ressemble un peu au syndrome du sauveur. Hein.
Ouais, mais totalement. Mais j'y pensais. Alors, j'y pensais, mais totalement. J'y pensais. Mais oui, tout à fait. mais avec les années, tu t'aperçois que c'est une connerie. C'est qu'en fait, tu peux pas. Et puis,
ça va multiplier les difficultés. Il y a la communication. Il y aura plus de gens à gérer.
Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que donc moi, j'étais dans une politique avant de prendre voilà. Et donc justement, des gens qui viennent de loin aussi, genre comme voilà, comme on peut avoir voilà. Donc c'est vrai que il y a cette difficulté de gestion de toute cette patientèle qui arrive de différents endroits, de différents correspondants. Et il faut être capable justement de gérer. Alors moi, je ne pense pas qu'en tout cas, il y a une solution de dire je ne prends que 10 correspondants ou j'en prends 100 ou 200. Ça va en fonction de toi, ta vision de la santé. Est-ce que ta vision est plutôt soigner un maximum de personnes ou justement quelque chose peut-être de qualitatif avec moins de personnes. Et après, une fois que tu as fait ce choix-là, bah, c'est vrai que la communication va s'adapter à ces types de choix.
Voilà. Ouais, la communication, c'est un bel outil finalement. Pour travailler ça, justement.
Aussi.
Si on veut aller chercher plus de monde, on va ouvrir ces réseaux de communication. Ouais. Si on veut avoir plus de qualitatif, on va aller fermer et cibler peut-être ceux qu'on va devoir, avec lesquels on va devoir travailler. Je crois que le plus important, c'est trouver l'équilibre dans une activité qui correspond bien.
Ouais, hein,
est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça?
Oui, clairement.
Bon, bah, chouette. Merci, Coris.
pour ce flashback.
Pour ce flashback. Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est, je pense qu'il y a quelque chose avec soi-même qu'il faut savoir. Je pense pas qu'il y a une mauvaise décision à ouvrir plus ou moins. Mais c'est sûr, qualitativement, si tout le monde travaille dans le même endroit. Mais après, il faut financièrement que ça puisse se gérer. Parce qu'il faut, je ne sais pas combien d'omnipraticiens, il faut au moins un cabinet où il y a 5-6 omnipraticiens pour un endodontiste. Ou alors, c'est un endodontiste restaurateur un peu. Tu vois, on peut imaginer maintenant, tu fais l'endodontie un peu à l'italienne, tu sais, et puis de la resto quand même un peu légèrement évolué, mais sans gérer l'occlusion.
Peut-être que le message qu'on peut faire passer, c'est que quelqu'un qui souffre. Doit réfléchir à mettre en place une stratégie par rapport
au
à
sens
ça.
De son activité.
Au sens de son activité.
Tout à fait.
Est-ce qu'il faut peut-être pas fermer un peu pour un peu moins souffrir et plus cibler, etc. Et je trouve, et c'est là où je voulais dire que les outils pour communiquer avec ses correspondants sont essentiels à mettre en place. En tout cas, nous, ça nous a grandement facilité la vie. Enfin, maintenant, je ne sais plus ce que c'est que finir en retard, quoi. Si je termine à 17h, à 17h02, je suis habillé et je m'en vais du cabinet. J'ai plus de compte rendu à faire, etc. Et des outils, notamment le logiciel Endodata. Alors,
non, mais sans faire pub pour ce logiciel.
Aucun problème avec ça. C'est même pas pour une question de pouvoir faire une pub. Ça nous a changé notre vie. Il faut que vous le sachiez.
C'est mignon. Ouais.
Ça nous touche.
Je vais faire un hug. Je sais pas si ça passe au micro.
On le fera après.
Nous, ça nous touche. Ça nous touche beaucoup.
Ça nous touche parce qu'on a beaucoup donné d'énergie pour rendre service à tous les endodontistes et à ce que ce soit possible, quoi. Ouais.
Mais c'est parti vraiment c'est venu d'un besoin, genre quand ça s'est créé en Endodata, c'est passé comme ça, c'est qu'il y avait ce besoin de gérer toutes ces choses-là et voilà, c'est un besoin qu'a créé le service. Mais nous, je sais que je voulais dire sur les utilisateurs, c'est quand même, il y a pas mal de gens qui viennent nous voir aussi des fois en disant ah, j'en peux plus. Il y a des gens qui disent j'ai envie d'avoir Endodata parce que je pense qu'en termes de qualitatif ça va être mieux au niveau de ma consultation. Et puis il y a aussi des gens des fois qui disent ah, je suis submergé et tout et je veux gérer justement cette communication avec mes correspondants, j'ai pas envie de finir tard le soir et tout. Et on a beaucoup de gens qui nous disent ah, ça a changé notre vie au bout de 3 semaines, 1 mois. Et des fois, c'est les femmes ou les conjoints, ou les maris, qui disent tu prends Endodata.
C'est Sandrine, c'est les thérapeutes de couple. Ouais,
c'est vrai, il y a des gens qui c'est pas que les utilisateurs, ça change pas que la vie des utilisateurs, mais ça change aussi la vie de la famille ou
des
du conjoint.
Ouais. Bon, bah super. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la première chose à mettre en place pour bien communiquer avec ses correspondants, c'est déjà des outils, comme des rencontres physiques? Marc, tu valides?
Je valide.
Ok, des fiches standardisées d'envoi, comme
formulaire
des fiches de liaison, des formulaires d'orientation. Des comptes rendus, pareil, standardisés, c'est ça?
Ouais.
et un contact régulier, une c'est disponibilité. Ça. Voilà, c'est ça, la quatrième, c'était ça. Voilà, avec un magnifique outil que vous avez créé, que vous avez eu la chance, enfin le génie de créer, je trouve. Non, que nous, on a la chance de pouvoir utiliser.
Il y avait Tdo aussi avant, non, il y avait d'autres quand même.
Ouais, mais en tout cas, franchement, c'est franchement bravo.
Et je crois que là, c'est le courage plus que le génie.
Est-ce qu'on peut ouvrir un peu ça, ça, j'ai vu des pistes, non, ça part sur d'autres domaines que l'endodontie ou pas encore?
C'est pas secret, on fait l'implantologie.
L'implantologie.
Mais on est en version 13 alpha.
Ok. Donc ouais. Ça suit son cours.
Ça suit son cours.
Vous continuez à travailler.
Ouais, on répond à des besoins qui peuvent aussi être différents. Donc on se réajuste aux besoins de ces disciplines qui sont aussi un peu différents.
Ok, parfait. Voilà. Et ben, on a hâte de voir. Merci en tout cas à tous les quatre pour ce magnifique échange. Merci à Pauline Bussy qui s'occupe de toute la réalisation de ce podcast. Et on vous dit à très très vite pour le prochain épisode des podcasts du Lab.
Merci.
Merci Mathieu.
Merci à vous.